Sur l'Agora du 14 février 2023. Que reste-t-il aujourd'hui du 14 mars? Par Antoine Courban. 18 ans après l'assassinat de Rafik Hariri le 14 février 2005, le clivage vertical de l'opinion publique libanaise demeure tout aussi vertical, mais s'agit-il toujours du même fossé qui sépare un camp inféodé à l'Iran des mollahs, dit du 8 mars, et un camp plutôt national et libéral, dit du 14 mars? Existe-t-il toujours un 14 marxisme libanais, ou l'étiquette 14 mars serait-elle devenue un simple masque commode recouvrant assez mal les identitarismes sectaires libanais et leur traditionnel féodalisme de chefferie d'une époque qui, décidément, refuse obstinément de tirer sa révérence? On peut aimer ou ne pas aimer Feu Rafik Hariri, sauvagement assassiné par les barbouzes libano-syriennes des mollahs de Téhéran. Mais on ne peut pas nier que cet assassinat constitue un point de non-retour dans l'histoire de la République libanaise. Certains ont cru que le massacre libanais de la Saint-Valentin en ce 14 février 2005 fut l'étincelle qui alluma le brasier de l'indépendance et surtout de l'allégeance définitive à une patrie que la Constitution de 1989, née des accords de Taif, avait façonnée. En soi, un tel jugement se justifie à la lumière des événements de 2005, même s'il ne s'inscrit pas dans une durée mal assurée, tant son assise ne semble pas fondée sur la règle du droit, mais plutôt sur un consensus évanescent et toujours renégocié entre chefs de clan et seigneurs de guerre. Aimé ou détesté, Rafik Hariri avait au moins une vision reposant plus ou moins consciemment sur un pivot central ainsi formulé. L'unité politique a pour fondement la ville qui rassemble, en l'occurrence Beyrouth. On peut discuter de la stratégie financière suivie par Hariri ainsi que du bien fondé de sa politique portant sur la dette publique. Néanmoins, en dépit des faiblesses de sa stratégie, il n'en demeure pas moins que Rafik Hariri a jeté les bases d'une possible unité politique réalisable au Liban, centrée sur la reconstruction de Beyrouth. Son projet a-t-il abouti? Oui et non. Beyrouth fut reconstruit entre 1992 et 2005 grâce aux investissements et aux aides des pays de la presqu'île arabique, Arabie Saoudite en tête. Hariri était-il conscient de l'importance vitale de la ville en matière de construction d'un État? Était-il plus homme d'État ou homme d'affaires? Les historiens répondront à cette interrogation. Consciemment ou inconsciemment, Rafik Hariri s'est lancé dans son projet conformément à ce qu'affirment les deux adages suivants. Le premier est du préfet de Rome, Rutilius Namasianus, qui, après le sac de sa ville en 410, fait l'éloge de l'urbs romana en disant, je cite, car en partageant ton droit juste avec le vaincu, tu as fait une ville de ce qui était jadis le monde. Fin de citation. L'unité politique ou l'union du multiple se fait par le droit et la loi que seule une culture de citadinité autorise. Le second adage est du poète Nonnos de Panopolis, du 5e siècle environ, qui dit à propos de Beyrouth, je cite, « La discorde qui défait les États ne cessera de compromettre la paix que lorsque Bérite, garante de l'ordre, sera juge de la terre et des mers, lorsqu'elle fortifiera les villes du rempart de ses lois. » Fin de citation. Ville, justice, droit, loi, tels sont les ingrédients indispensables de toute stabilité politique, sans lesquels toute cité ne serait qu'un vaste monde informe où l'unité politique devient impossible à cause du règne de la permanente discorde temporairement assagie par le fragile et vain consensus. Depuis 2005, par la violence permanente, la terreur et l'effusion de sang, la discorde a défait le Liban, aujourd'hui réduit au stade de l'agonie avancée. Où sont tous ceux qui pleurèrent et prièrent en commun durant de longs mois sur la sépulture de Rafik Hariri? Qu'est devenu l'élan national du 14 mars 2005, ainsi que celui de 2015, mais également celui de 2019? Qu'est devenu la culture de la ville qui rassemble? Avons-nous vécu une simple illusion? Était-ce un faux semblant? Un chef de l'État peut-il encore émerger au milieu de la foule? A-t-il réellement besoin d'être l'héritier reconnu d'une lignée de parrains ou de chefs de clan? Quelle est donc cette indécrottable et incorrigible mentalité mafieuse qui étouffe la pensée politique libanaise, notamment chrétienne? La tragédie libanaise actuelle n'est pas uniquement due aux mœurs sanguinaires du tandem chiite Amal Hezbollah. Elle est aussi le reflet de cette mentalité clanique et mafieuse des sociétés rurales, chrétiennes entre autres. C'est ce qu'avait compris Orhanes Kuyumcihan, dernier gouverneur ottoman du Sanjak du Mont-Liban. Son jugement de la société de ses administrés ne manque pas de pertinence. Je cite, « Société d'un mélange de tribalisme sémitique et d'un féodalisme indo-européen. » Fin de citation. C'est ce tribalisme et ce féodalisme qui ont entretenu la discorde et ont ruiné l'émergence de la ville qui rassemble. Ce Beyrouth que Rafik Hariri a sans doute cru pouvoir refaire comme on restructure un holding financier ou une grande entreprise. 18 ans après, tout le monde se réclame bruyamment d'un 14 mars qui n'a rien à voir avec le grand mouvement de masse de 2005. L'étiquette 14 mars recouvre aujourd'hui tout et n'importe quoi, notamment l'odeur fétide des régressions identitaires les plus suicidaires, ainsi que la violence haineuse des courants d'extrême droite et de tous les populismes de gauche et de droite. La discorde s'est installée durablement. L'État central, seul capable de faire respecter le droit, est pulvérisé. Fédérons sur base communautaire, disent les idéologues identitaristes. Fédérer quoi? Peut-on demander aux plus faibles de réclamer un fédéralisme sur base identitaire? La force hégémonique de l'adversaire ne le permettra jamais. En outre, comment fédérer en l'absence d'un État central régulateur? Alors qu'un renversement démographique se profile à l'horizon, grâce à la présence de réfugiés et à l'émigration massive de forces productives. Divorçon propose d'autres en indiquant que deux réalités libanaises existent actuellement. D'une part, celle de l'homme nouveau, fabriqué par l'idéologie totalisante de Hezbollah. D'autre part, lui fait face la réalité dite souverainiste. Mais même le souverainisme bruyamment affiché cache mal la régression identitaire grégaire vers les ghettos de vaines identités collectives que font mousser les chefferies politiciennes claniques. Le Liban actuel est-il irrémédiablement condamné à jouer le peu glorieux rôle de joker stratégique? La citadinité qu'on porte vers la citoyenneté, est-elle encore viable? Le Liban comme message a-t-il encore une quelconque substance? Les chrétiens sont-ils encore porteurs du message Liban? Les sunnites et les druzes n'ont-ils pas pris le relais? Et quid des réfugiés? Les chrétiens réalisent-ils que de 2016 à 2022, ils se sont laissés griser par une stratégie suicidaire dont les conséquences se feront encore sentir sur plusieurs générations? Nous payons aujourd'hui le prix de nos illusions et de notre volonté clanique de puissance. Est-il possible de sauver quelqu'un qui se suicide malgré lui? Être ou ne pas être, telle est la question que Hamlet ne cesse de poser, non du haut du donjon d'Elseneur, mais du sommet majestueux d'un cèdre du Liban.